Laudetur Jesus Christus.
La France de nouveau confinée. Cela commence ce soir à minuit. Un confinement plus léger que celui du printemps, mais qui marque la fermeture de nombreux commerces et la fin des déplacements. On y revient juste après les titres. Ils sont 75 millions d'Américains à avoir déjà voté à 5 jours de la présidentielle. Un chiffre qui témoigne de la situation sanitaire, mais aussi de la mobilisation des électeurs. Reportage à suivre dans un bureau de vote de New York. Dans ce journal, nous irons également au Liban, où les victimes et leurs avocats s'organise après les explosions du port de Beyrouth. Également au Nigeria, après les violences des dernières semaines, place aux arrestations. Et enfin, dans notre dossier, nous reviendrons sur un parcours de mission exceptionnel, celui de Monseigneur Emmanuel Lafond, de Soweto à Cayenne, dont il est désormais l'évêque émérite.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à tous. Le compte à rebours est lancé. À minuit, les Français entreront dans une seconde période de confinement national. Dans une allocution télévisée, le chef de l'État a annoncé hier soir de nouvelles mesures afin de freiner la progression de la pandémie due au coronavirus. Emmanuel Macron a dressé un état des lieux préoccupant de la situation sanitaire. 33 000 nouveaux cas ont été répertoriés en 24 heures et 523 décès supplémentaires ont été enregistrés mardi, un record depuis le mois d'avril. Le président français a donc confirmé un reconfinement sur tout le territoire à partir de ce vendredi et jusqu'au 1er décembre. Néanmoins, des allègements sont prévus par rapport à celui de mars dernier. Pas question de bloquer la machine économique comme au début de la pandémie. Anthony Dorzec.
Concilier la protection de la population et le soutien de l'économie. Pour résoudre cette difficile équation, Emmanuel Macron a expliqué hier soir à ses concitoyens que cette seconde période de confinement n'allait pas ressembler à celle de mars dernier. Cette fois-ci, les écoles, collèges et lycées resteront ouverts. Seule l'université devra passer aux cours à distance. Contrairement au premier confinement, les services publics fonctionneront également normalement. Sur le plan économique, là aussi, les mesures seront différentes d'un secteur à l'autre. Le chef de l'État s'est voulu rassurant en précisant que les usines devront continuer de tourner, ainsi que le bâtiment et les travaux publics, ouverture également des commerces alimentaires et des services essentiels à l'activité économique. En revanche, restaurants et bars devront fermer leurs rideaux pendant au moins 15 jours, le temps de réévaluer la situation. Et après le travail, eh bien les Français seront contraints de rester chez eux, ou mieux, faire du télétravail. Pour sortir du domicile, ils devront à nouveau présenter une attestation justifiant leur sortie. Ces mesures seront précisées par le Premier ministre ce matin devant l'Assemblée nationale, puis au Sénat, avant de répondre aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse. À Nantes, Anthony Torzek pour Radio Vatican.
Lundi prochain, le 2 novembre, sonnera la fin des célébrations religieuses en présence des fidèles dans l'Hexagone. Avant-hier, le président de la Conférence épiscopale de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, avait envoyé une lettre à Emmanuel Macron, lui demandant de laisser ouverts les cimetières pour le week-end de la Toussaint. Cela sera le cas, les cimetières restent ouverts pour ce week-end, mais également plus tard. Le président français a annoncé qu'il sera toujours possible d'enterrer dignement les morts, sans donner plus de détails. En Espagne, on déploie les grands moyens pour surveiller les cimetières. Ils sont traditionnellement remplis le 1er novembre et ce sont des drones qui surveilleront les deux grands cimetières de Madrid afin de contrôler le respect des mesures anti-Covid. Fête de la Toussaint donc ce week-end et au Vatican ce lundi, le souverain pontife célébrera la messe dans une forme strictement privée, dans le petit cimetière teutonique dans l'enceinte des jardins du Vatican. Une messe qui sera à suivre en direct sur notre site internet. Aux États-Unis, J-5 avant la présidentielle du 3 novembre, les deux candidats sont en campagne, Donald Trump en particulier sur un rythme très soutenu. Il était hier dans l'Arizona. Une journée plus tranquille hier pour son adversaire Joe Biden, chez lui dans le Delaware, où l'ex-vice-président a voté par anticipation, comme 75 millions d'Américains. Un record. Un chiffre qui s'explique par la situation sanitaire, mais augure aussi d'une forte participation, que cela soit dans les États clés, mais aussi là où les enjeux politiques sont moindres. C'est le cas à New York, où les bureaux de vote ont ouvert le week-end dernier. Loïc Loury y était.
Des centaines de mètres de queue à l'ombre du Madison Square Garden et des heures d'attente pour glisser un bulletin dans l'urne. Miguel espérait voter pour la première fois, mais il reviendra finalement un autre jour. La queue fait tout le tour du bloc, on a tenté notre chance, mais c'est trop pour aujourd'hui. C'est un très bon signe, j'espère qu'ils voteront pour le bon. Kamala et oncle Joe, les voilà les bons candidats selon une majorité de New-Yorkais, bien décidés à empêcher Donald Trump d'obtenir un second mandat. Car si le Covid explique en partie cette mobilisation anticipée inédite, l'opposition au président en est aussi responsable. Mike est bon dernier de l'une des files d'attente. Les New-Yorkais sont des gens très passionnés, notamment contre Donald Trump. En 2016, à son propre bureau de vote, il a été hué, ça n'arrive jamais. Des électeurs gonflés à bloc dans un état, celui de New York, gagné d'avance, mais aussi dans les territoires clés de cette présidentielle. En Pennsylvanie notamment, état pivot par excellence, les démocrates sont trois fois plus nombreux que les républicains à avoir voté en avance. Un chiffre toutefois difficile à interpréter, car s'il illustre sans conteste la motivation des démocrates, il ne dit pas quelle sera celle des républicains plus nombreux à se déplacer le 3 novembre. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
À 6 jours de la présidentielle, plus de 1000 dignitaires religieux américains ont publié un appel conjoint pour une élection libre, équitable et sûre, afin que tous les votes soient comptabilisés avant l'annonce des résultats. Ce scrutin est un moment crucial pour la démocratie, écrivent les évêques américains. Retour au Liban ce matin, bientôt 3 mois qu'une double explosion a dévisagé la capitale. Hier, l'ordre des avocats de Beyrouth a déposé près de 680 plaintes devant la justice au nom des proches des victimes de la catastrophe du port de Beyrouth qui a fait 200 morts, plus de 5500 blessés et dévasté des quartiers entiers de la capitale. Les explications de Paul Ralifet.
La démarche du barreau vise à faire pression sur la justice afin qu'elle rende les conclusions de l'enquête qui n'a toujours pas abouti presque 3 mois après la catastrophe du port de Beyrouth. Des dizaines de personnes, dont des hauts responsables de l'administration, des officiers des services de sécurité et des employés du port ont été entendus par les magistrats. Une vingtaine de personnes, dont 3 hauts fonctionnaires, sont en état d'arrestation. Mais à ce jour, aucun rapport détaillé sur les causes, les circonstances et les responsables de l'explosion de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium n'a été rendu public, même si la thèse de l'accident est privilégiée. Le bâtonnier de Beyrouth, Melham Khalaf, a sollicité l'intervention du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, auprès des pays membres des Nations Unies pour qu'ils fournissent aux enquêteurs libanais les photos satellites prises le jour de l'explosion. Il a aussi demandé à la force intérimaire de l'ONU, qui dispose de bâtiments croisant au large des côtes libanaises, des informations du navire Rosus qui a transporté en 2013 le stock de nitrate d'ammonium qui a explosé le 4 août. Les 680 plaignants défendus par le barreau de Beyrouth n'ont pas les moyens d'engager des avocats. Les familles des victimes ont réclamé ce mercredi des châtiments justes contre les véritables responsables de la tragédie. Paul Khalifé, Beyrouth, pour Radio Vatican.
Première sortie d'Alpha Condé hier en Guinée depuis sa réélection il y a 10 jours. Le président sortant s'est rendu dans 2 hôpitaux au chevet et des victimes des violences post-électorales. Le candidat de l'opposition, lui, redevient libre de ses mouvements. Les forces de sécurité qui gardaient son domicile ont plié bagages sans crier gare, a annoncé Sélou d'Alain Diallo. Arrestation de plus de 800 suspects par la police nigériane suite aux violences criminelles de ces derniers jours. Lagos et 3 autres États ont inauguré leur chambre judiciaire pour faire la lumière sur la brutalité policière, mais également sur la répression militaire. Les explications d'Ishaka Adegboye.
Les suspects ont été arrêtés pour avoir pillé et incendié les lieux publics et privés, suivant la répression militaire sanglante qui a fait 12 morts selon Amnesty International dans le rang des manifestants au menu qui protestaient contre la brutalité policière au péage de Lekki dans la banlieue sud de Lagos. La police à Abuja dit avoir appréhendé aussi 100 de personnes pour le cambriolage des entrepôts d'aide alimentaire Covid-19 destinés à être distribués aux populations vulnérables au cas où le Nigeria sera l'objet d'un reconfinement. La chambre judiciaire constituée spécialement pour enquêter sur la brutalité policière a vu le jour dans 4 États que sont Lagos et Edo au sud-ouest, Akwa Ibom et Rivers dans le sud-sud du Nigeria. L'État de Lagos a débuté ses premières audiences. Pour rappel, les allégations de brutalité policière ont déclenché 2 semaines de protestations de jeunes Nigérians qui réclament une réforme de la police nigériane. Cheikh Adeboye Lagos pour Radio Vatican.
Il a appris, le jour même de son 75e anniversaire, que le pape avait accepté sa démission. Monseigneur Emmanuel Lafond est depuis lundi dernier l'évêque émérite de Cayenne en Guyane, un département français où il a choisi de rester, dans un village amérindien d'Amazonie. Né en 1945, élève à Paris puis Neuilly, il part à Rome en 1962, où il arrive au séminaire français 11 jours avant l'ouverture du Concile Vatican II. Un événement majeur qui rassemble pour la première fois des évêques de tout le continent. Un concile missionnaire par essence, puisqu'il s'agit de trouver un moyen d'énoncer l'évangile aux hommes du XXe siècle. Le jeune séminariste vit 4 ans au rythme du concile, s'ensuit son service militaire. Emmanuel Lafond découvre l'Amérique du Sud et la Méditerranée. Un faisceau d'événements qui l'ont conduit à une vie de mission en sortie, comme dit le pape François. En 1983, Emmanuel Lafond est parti comme prêtre Fidei Donum pour le diocèse de Johannesburg en Afrique du Sud, un pays toujours sous le régime d'apartheid, où il devient l'aumônier de la Jo et curé dans l'immense bidonville de Soweto. Monseigneur Emmanuel Lafond revient pour nous sur ses années de mission.
D'abord, la gentillesse de ces peuples et leur accueil, alors que j'étais blanc par toutes les pores de ma peau et que ça représentait pour eux quelque chose d'assez terrible. Mais non, ils faisaient la différence immédiate entre des gens qui venaient vers eux les mains ouvertes et les autres. Et puis, ce qui m'a marqué aussi, c'est à la fois l'horreur de la violence et l'imprégnation chrétienne de la majorité du peuple sud-africain, toutes ethnies confondues. En Afrique, c'est bizarre de ne pas croire que tout ce que nous l'avons reçu d'une entité supérieure qui est bonne et qui est généreuse. Et donc, ça m'a beaucoup aidé aussi à retrouver une espèce d'assise spirituelle.
Des émeutes éclatent quelques mois après votre arrivée. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment et finalement ce long chemin qui a conduit à la libération puis à l'élection 4 ans plus tard de Nelson Mandela? Comment est-ce que la Bible a accompagné votre chemin individuel et collectif?
Ce qui m'a le plus aidé, c'est le livre de l'Exode. À la fois ce désir de Dieu de sauver son peuple, l'importance de gens comme Moïse, la difficulté d'un passage de l'esclavage à la liberté parce que les esclaves n'ont pas reçu ce qu'il fallait pour vivre de façon responsable et libre, si bien que le passage est toujours chaotique. D'ailleurs, c'est ce que montre l'ensemble du livre de l'Exode. C'est un long chemin qui n'est encore pas achevé, ni en Afrique du Sud, ni dans beaucoup d'autres pays marqués par des dictatures du XXe siècle. Donc voilà, la Bible m'a donné une espèce de confiance dans un Dieu qui aime être adoré par des gens qui sont libres. Donc la libération fait partie du message biblique totalement.
Vous rentrez en France et êtes nommé en 2004 évêque de Cayenne en Guyane par le pape Jean-Paul II. Vous essayez de relancer l'évangélisation sur place en remettant la parole de Dieu au centre avec la publication de 55 000 Bibles. Vous essayez aussi de vous mettre en sortie avec votre église. Comment vous avez approché ce qui était le plus loin d'elle et parfois blessé par elle, à savoir les peuples autochtones?
Il faut beaucoup d'humilité, il faut apprendre leur langue. Il faut s'incarner. C'est le terme théologique qui décrit la façon dont le Fils de Dieu est devenu homme parmi les hommes et frère parmi les frères. Et il n'y a pas d'autre modèle que celui de Jésus. Une très grande proximité, une capacité d'écoute étonnante, une empathie pour les blessures des gens, et une joie à relever un par un les personnes qu'ils touchent et dont ils s'approchent.
Mais du coup, comment est-ce que vous vous êtes présenté à eux? Quelle attention vous leur avez portée? Et pendant toutes ces années, finalement, qu'est-ce que eux aussi vous ont apporté?
D'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une priorité. Je n'ai pas fait des visites pastorales dans toutes les paroisses tous les ans, sauf sur les fleuves, dans la plupart des villages de l'intérieur. Ensuite, ce qu'on apprend d'eux, c'est une sagesse ancestrale. Ce sont des gens qui connaissent la nature beaucoup mieux que nous la connaissons, qui n'ont jamais eu d'attitude prédatrice. J'avais voulu s'approprier la nature, mais s'en servir pour se nourrir, pour se loger, pour se soigner. Il manifeste magnifiquement ce qu'on dit dans notre Père, donne-nous notre pain de ce jour.
J'ai cru comprendre que vous souhaitiez aujourd'hui vous installer à leur côté.
Oui, je vais aller vivre dans un de leurs villages. Oui. Il y a beaucoup de raisons. D'abord, c'est que j'ai été très touché dès ma première rencontre avec ce village, touché à la fois par la simplicité de leur vie et leur égarement face à la société qui les entoure et dont ils ne maîtrisent pas grand-chose. Et la deuxième chose qui m'a poussé, c'est que je n'ai jamais réussi à ce qu'il y ait une vie missionnaire de proximité régulière au milieu de ces gens. Et donc, n'ayant pas réussi à ce que quelqu'un s'y installe, eh bien, je me suis dit, ben, peut-être qu'à mon tour, je tenterai de le faire.
Interrogé par Marie Duhamel, Monseigneur Emmanuel Lafond était ce matin l'invité de Radio Vatican. Le prochain retour de la formation, c'est tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite une très belle journée.